Et donc, on va passer au contexte. D'accord. Alors, ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, finalement, ça paraît assez simple quand on regarde bien, hein. Donc, on crée notre package, on fait beaucoup de choses en drag and drop. Rappelez-vous, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est principalement du développement d'une solution et puis son déploiement. Donc, c'était quelque chose d'assez manuel et c'était pour un cas précis. Là, l'exemple qu'on a pris, des fichiers CSV qui tombent dans un dossier, on les traite et puis on les envoie dans une base de données. On fait tout un traitement autour de ces fichiers, etc. C'est quelque chose d'assez ciblé finalement quand tu regardes bien. Si demain il y
De
a
spécifique.
du spécifique, exactement. Donc ça veut dire que c'est. Alors j'ai fait des choses assez finalement manuelles. L'automatisation à ce niveau-là n'est peut-être pas forcément très très aisée. Et surtout en termes de réutilisation.
Pour un package qui serait identique, tu aurais dû dupliquer ton package,
Ouais.
le rééditer, aller changer les informations de connexion, etc. Mais quelque part pour exactement le même travail. Donc, pas forcément très compliqué, mais un
Consommateur
peu
de temps,
consommateur de temps,
exactement.
rébarbatif et potentiellement dangereux avec
Des erreurs humaines, enfin quoi, de l'ordre de
des erreurs
manipulation.
humaines.
Autre chose, c'est au niveau de la maintenance. Rappelez-vous, dans la démo, je me suis permis donc de rajouter une colonne dans ma base données. Si ça vous avez bien remarqué, je l'ai rajoutée
À la fin.
à la fin de la table. Donc SSIS s'en est bien sorti. Si on l'ajoute, si on insère la colonne, plutôt, pardon, excusez-moi, si on insère la colonne, là, ça aurait été un peu plus problématique à cause des références, des IDs, des colonnes,
Voilà.
etc. Tu peux peut-être nous en dire plus, Bertrand, sur le sujet.
Effectivement, puisque SSIS repose sur ce qu'on appelle des metadata. Et les metadata de SSIS sont connues pour être, comment dire, capricieuses, ce qui n'est pas normal, puisque en fait, les metadata, c'est une cartographie du design du package. Donc lorsqu'on édite par exemple un DTSX dans Notepad, mais on va avoir quelque chose qui ressemble à du XML, très très verbeux, avec des IDs pour chaque composant, pour chaque propriété, un peu dans tous les coins, pour schématiser. Et puis, les IDs sont référencés et on crée notre cartographie de notre package. Donc, lorsqu'on souhaite modifier un package, y insérer quelque chose, eh bien, c'est toute cette cartographie qui doit être mise à jour. Tu as parlé effectivement, par exemple, d'insérer un nouveau champ. Eh bien, on aurait eu un warning sur ton composant de destination, comme quoi les métadatas n'étaient plus à jour. Donc là, ça aurait été assez simple. C'est ton dernier composant dans ton
Ouais.
flux, tu l'ouvrais, tu revalidais un cool mapping et tu validais et c'était bon. Mais imaginons que cette modification arrive en plein milieu de ton data flow ou à la source. Eh bien, le travail manuel, une fois de plus, n'est pas très compliqué à faire, mais il faut revalider tous les composants, tous les rouvrir, les revalider. Retester bien entendu derrière, et puis l'enchaînement de petites tâches manuelles souvent entraîne de la régression au final. Donc un rework qui est manuel qui est effectivement potentiellement assez important.
Alors, suite à ça, en fait, il y a eu des initiatives qui ont été faites, et notamment au sein de Microsoft, donc il y a quelques temps, donc en 2007. En fait, l'origine du besoin, c'était bien sûr des besoins de business intelligence, et au sein du support de Microsoft, c'était de pouvoir réconcilier des informations venant de plusieurs filiales, donc au niveau du support, pour pouvoir justement mieux traiter les incidents, mieux faire du reporting, mieux faire du suivi, etc. Sauf, comme je l'ai dit, c'était donc plusieurs filiales, donc chaque filiale avait son référentiel propre, ses rapports propres. Et si on souhaitait avoir une vue consolidée de tout ça, donc il fallait pouvoir mutualiser l'ensemble des informations. Donc on peut se mettre d'accord une fois, mais après chaque filiale peut faire évoluer son modèle, ses informations, etc. Et donc il faut pouvoir justement suivre ces évolutions. Donc l'idée, c'était de pouvoir justement mettre en place une sorte de solution qui puisse justement encaisser ces différentes évolutions en fonction du gré des différentes filiales. C'est là où le projet Vulkan
Freeform.
a pris forme finalement. Donc en janvier, oui ça, en janvier 2008, donc le projet Vulkan, donc le projet a un petit peu mûri au niveau du support et a même été rendu public donc sur notre site Codeplex, donc sur l'adresse que vous voyez à l'écran, vulkan.codeplex.com. Alors il y a eu des retours positifs sur cette méthodologie-là. Mais par contre, en termes de mise en œuvre, ce n'était pas tout à fait ça. Et je pense que tu as eu une expérience sur ce sujet-là, Bertrand.
Justement, courant 2008, donc j'étais sur un projet où la chaîne décisionnelle devait pouvoir être vendue en tant que marque blanche. Donc, personnalisée suivant le client auquel cette solution allait être vendue. Donc j'avais regardé donc Vulkan. Effectivement, dans le concept de la production finale, Vulkan était très intéressant. Par contre, dans la mise en œuvre, donc dans l'installation, le déploiement, etc., c'était pas encore mature, on va dire. Donc finalement, on était parti sur une solution maison, custom. Mais c'est vrai, avec ce petit regret de ne pas avoir pu l'utiliser, puisque on sentait qu'il y avait quelque chose qui avait un réel quelque chose derrière Vulkan, mais qui demandait un peu plus d'évolution, de maturité et de retour d'expérience.
Alors, c'est quand même quelque chose qui a évolué, à un tel point que son créateur, donc Scott Curry, donc de Microsoft, a créé Varigence. D'accord. Et donc un outil donc pour justement l'utiliser.
D'accord. Donc, effectivement, il a créé donc cette société. Oui. Qui a créé les spécifications et le langage BIML. Alors, ça s'est inspiré de Vulkan, mais ça n'est pas Vulkan. C'est effectivement, ils sont partis de ce retour d'expérience pour le next step.
Alors, effectivement, il a créé donc Varigence pour créer une solution autour du BIML, mais c'est aussi quelque chose qui est disponible donc en mode libre finalement.
En mode libre, c'est un langage qui est complètement ouvert et qui est intégré, comme on le verra juste après, donc à des éditeurs, à des outils qui sont eux complètement libres. Donc on peut appeler du BIML, le compiler BIML, de manière totalement libre.
Alors ce qui est intéressant, c'est que ça supporte SQL Server 2008 et les versions suivantes.
Voilà.
Alors justement, on parlait que c'était un langage ouvert, disponible gratuitement si on le désirait. Donc nous, ce qu'on va faire dans cette session, donc on va plutôt parler de deux outils principalement. Le premier, Bits Helper.
Qui est assez connu des développeurs BI, puisque c'est un add-in gratuit. Oui. Disponible sur CodePlex, et que souvent on ajoute Data Tools parce que ça rajoute tout un tas de fonctionnalités qui sont assez intéressantes.
Alors par contre, le Bits Helper ne prend en charge que SSIS.
Voilà.
Ça ne génère pas automatiquement la solution, hein, donc SSIS, donc il y a quelques limitations, hein, pas de mode projet. Et puis si tu veux gérer tout ce qui est les logs, donc il faut des outils additionnels, notamment pour débugger. Ceci dit, ça permet déjà de mettre le pied à l'étrier, de pouvoir évaluer le BIML, puis finalement aussi de faire des choses quand même assez intéressantes directement. Si maintenant on veut aller plus loin, donc il y a des outils spécifiques, et là donc on va parler de Myst.
Voilà, donc Myst, c'est l'éditeur qui a été conçu par la société Varigence, donc les concepteurs du BIML. C'est soumis à licence. Et par contre, c'est un environnement de développement qui, pour le coup, il est complet. C'est un IDE, comme on aurait DataTools qui est un IDE complet, ben là on a la même chose dans Myst. Il y a un debugger qui est incorporé. À l'inverse de Bits Helper, on va pouvoir faire des projets de base de données, des projets SSIS ou des projets de cube. Lors de la génération, ça génère aussi le projet avec. Donc on va avoir les packages qui sont générés, l'éventuel project param si on est en mode projet qui va être généré, et puis le ISPAC. Donc quelque part, il n'y a plus que déployer derrière. Et l'ensemble des différents projets qu'on peut avoir au sein d'une solution, donc j'ai dit BDD, SSIS, SSAS, peuvent communiquer entre elles. Par exemple, un projet SSIS va pouvoir appeler des informations qui sont présentes dans le projet de base de données.
Alors, si on regarde un peu le détail, hein, le principe général du BIML, donc finalement, c'est quoi? C'est des scripts,
c'est quelque chose d'assez simple dans le concept général, puisque ce sont des fichiers de script BIML qui, une fois qu'ils sont passés au travers du compiler BIML, vont fournir en sortie des packages DTSX qui sont tout ce qu'il y a de plus conforme et standard Microsoft. Donc vous les ouvrez dans votre Data Tools et il n'y a aucun lien avec le BIML qui a servi à les produire.
Et on retrouve finalement ce qu'on a vu en démonstration, le même environnement, les mêmes tâches.
Exactement.
Control flow, data flow, tout ça. Alors c'est un langage déclaratif, comme tu as dit, finalement.
Comme le XML, ouais. En fait, c'est déclaratif, c'est assez simple et facile à lire. Tout à l'heure, j'ai parlé d'éditer un package DTSX dans Notepad,
ouais.
Et qu'on avait quelque part du XML aussi derrière, mais qui est assez verbeux, assez lourd. Et pour pouvoir faire une modification dedans, c'est quasiment voué à l'échec. Là, on a, comme on peut le voir donc à l'écran, quelque chose qui, même pour le commun des mortels qui n'a pas forcément fait de SSIS avant, quelque chose d'assez simple. On a une balise package avec un S qui va comprendre plusieurs balises, éventuellement package en dessous, avec dans chaque package des tâches, et par exemple dans notre cas, un data flow. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement simple à lire et à modifier si jamais on doit aller dedans. Le code qui est généré, comme on l'a souligné, c'est du standard, du pur standard Microsoft. Et puis, un intérêt aussi, c'est que ça a été conçu pour pouvoir fonctionner sur des projets, notamment en mode agile. En mode agile, on doit régulièrement revenir, itération après itération, sur des développements qui ont été faits auparavant, pour les enrichir, pour les modifier, et ainsi de suite. Tout à l'heure, on en a parlé, revenir sur des développements en SSIS, c'est donc potentiellement rafraîchir des métadatas, beaucoup de rework manuel, et éventuellement de la régression au final. Donc là, donc on va avoir avec ces fichiers BIMLE qui contiennent, qui sont le cœur de l'intelligence de nos packages, la possibilité d'aller faire quelque part une frappe chirurgicale, de modifier et de générer après derrière sans avoir tous les effets de bord des métadatas et ainsi de suite. On a un refactoring qui est assez simple et rapide. Mmh. À noter aussi que comme on parle d'agilité, on a cette possibilité de travail collaboratif. On peut le faire aussi dans Data Tools, sur un projet SSIS, faire du travail collaboratif, travailler à plusieurs sur un même package.
Tu ne seras pas en train de parler un peu de DevOps là ?
Oui, ou avec du TFS derrière, ouais. Où on va aller travailler chacun sur le même package, et puis après avec des systèmes de merge, etc. Enfin, ça demande effectivement toute une industrialisation à mettre en place, avec des règles de bonne pratique, etc. Là, on a une façon assez simple de le faire dans Myst, pour, dans notre cas, la génération de package SSIS. Et puis, cerise sur le gâteau, et c'est un des grands intérêts du BIML, c'est la possibilité d'enrichir le code BIML avec du C# ou du VB.NET pour automatiser la création des packages. Donc avec ce C# ou ce VB.NET, on va aller se connecter à des repositories de métadonnées sur lesquelles on va itérer et puis on va générer N package en sortie. Donc dans les cas d'usage du BIMLE, on vient déjà un petit peu de l'énoncer, c'est la mise en place de design pattern et de template, la possibilité du travail collaboratif et de projets en mode agile, et puis l'automatisation de la génération de packages SSIS, mais aussi la prise en charge de projets de base de données ou de projets de cubes.
Alors, en principe détaillé.
Voilà, donc en principe détaillé, on l'a vu tout à l'heure, le BIMLE c'est quelque chose de simple, c'est contenu dans un fichier de script BIMLE. On peut éclater donc un package SSIS en plusieurs fichiers de script BIMLE qui vont être organisés en ce qu'on appelle des tiers. Donc au moment de la recompilation, eh bien, ça va être le tiers le plus faible et ainsi de suite qui va être appelé et recompilé. Donc là, on a un exemple avec un fichier de tiers 0 qui contient des informations sur nos connexions, nos bases de données, nos schémas, etc. Donc lui, il va être appelé en premier au moment de la compilation. Ensuite, on a un fichier de tiers 1 qui contient des informations de tables et colonnes. Là, on est typiquement dans un exemple d'un projet, d'une solution Myst dans lequel il y a un projet de base de données et où on va aller lire ces informations concernant les tables et colonnes dans notre projet Myst. Et enfin, en dernier lieu, on a un fichier de tiers 2 qui va être appelé en finale et qui va contenir donc notre définition de notre design, de notre package.
Le
tout appelé par en ordre, compilé, et ça produit en sortie des fichiers DTSX, tout ce qui est plus conforme. Donc la structure au sein de ces fichiers BIMLE, en fait on a des blocs de texte avec des directives, et puis on a la possibilité de mettre des blocs de contrôle, soit des choses très très standards, ou des choses un peu plus évoluées, où on va aller enrichir avec du C# ou du VB, avec du for each, du if, etc., et ainsi de suite, avant de proposer tel ou tel code, bloc de texte en BIMLE. Voilà. Donc quelque chose d'assez structuré, mais d'assez simple.
Bon, le mieux,
c'est de passer une petite démo.
On va faire une petite démonstration.
Et dans un premier temps, donc comme on souhaite vous faire voir justement les deux possibilités de faire du BIMLE, d'un côté un monde gratuit avec BitsHelper, de l'autre côté avec un environnement de développement intégré avec Myst. Donc la première démo sera avec BitsHelper.
Donc là, on va créer un package, finalement, comme tu l'as dit, assez simple. Alors, on revient donc dans notre SSD TBI. Et là, donc, pareil, je vais créer un projet de type Integration Services. Et je vais ici donc l'appeler BIML MVA. Et je vais cliquer sur OK. Alors là, ça va fonctionner parce que j'ai installé BitHelper.
Exactement. Auparavant.
Alors, une fois que BitHelper a été installé, si je fais un clic droit ici, j'ai la possibilité donc de rajouter un nouveau fichier type BIML. D'accord ? Donc, chose que je vais faire. Et il va tomber ici dans le dossier divers. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, lui, je vais le renommer. Je vais l'appeler je vais l'appeler source. D'accord ? Et ce fichier-là, en fait, il va tout simplement définir la source de mon fichier. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il est possible donc de créer plusieurs fichiers BIML donc pour définir l'ensemble de notre package. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire plusieurs fichiers, un pour la source, un pour la destination, un pour le package.
Décomposer notre design de notre package.
Alors, juste pour info, le fichier qu'on va chercher se trouve donc sur notre disque dur dans temp BIML. Donc, c'est notre fichier ici, customer.csv. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que... ça va marcher sous forme de balise finalement. Et donc tu vois là, j'ouvre une balise, hop, il me propose plusieurs choses, dont notamment la balise connections. Donc je vais tout simplement ouvrir la balise, donc je vais définir. Et tu vois, si je ferme la balise, il me propose donc justement la fermeture de cette balise-là. Donc là, je vais définir des connexions. Qu'est-ce qu'on veut comme connexion ? Donc on va attaquer un fichier plat. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ici, si je tape F, j'ai la possibilité de faire un flat file connection. Donc flat file connection. Et je vais lui donner donc un nom. Donc voilà ici, et je vais l'appeler hop, customers file. Je vais lui donner donc un chemin, donc ici file pass. Et donc le chemin que je vais chercher donc à ce fichier, c'est celui-là, donc sur temp SSIS BIML, et le fichier c'est customer.csv. Donc je vais bien lui définir tout ça, et customers.csv. Et puis, on va définir aussi le file format. Donc là, c'est en fait, si on définit le file format, mais on va lui donner un nom. Donc, on lui donne le nom que l'on désire. Donc, FF underscore customers file underscore CSV. Et on va penser à bien fermer la balise. Donc là, je viens de créer mon premier fichier BIML. Donc là, je vais en créer un deuxième maintenant. Pour définir la structure de ce fichier, d'accord ?
Donc là, en fait, quelque part, ce que tu es en train de créer, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure, le Flat File Connection Manager dans Data Tools, dans la première démo.
Exactement.
Mais ça reprend aussi, quelque part, ce qu'on a pu voir des évolutions à partir de SQL Server 2012, c'est la possibilité de faire des connexions manager qui sont partagées. Puisque là, donc, ton Flat File Connection, qui est un fichier à proprement dit, qui n'est pas intégré dans le fichier qui définit le package, va pouvoir être consommé par d'autres packages.
Exactement. Donc là ici, ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est tout simplement, on a préparé un petit peu, hein, parce qu'on ne va pas taper tout le script non plus. Donc là, je vais prendre un copier-coller, et là, je vais définir, en fait, les propriétés de ce fichier. Donc là, voilà ce qu'on voit ici, hein. Donc, je vais faire un zoom un peu mieux que ça. Voilà, donc, les colonnes qu'on va rechercher, le délimiteur et tout, etc. Je définis la structure de mon fichier. Je vais faire la même chose maintenant pour définir la source. Donc là, ma destination, pardon. Là, je viens de définir la source. Là, maintenant, je vais définir la destination. OK. Donc là, je vais l'appeler destination. Voilà. Donc, je vais faire un double clic dessus. Et je vais le remettre ici. Voilà. Et je vais aller chercher maintenant les informations liées à la destination. Donc là, on va envoyer notre dossier CSV dans une base de données, un peu comme on a fait tout à l'heure finalement. Hop, donc je vais définir tout ça ici, voilà. Et puis je vais créer un dernier fichier pour justement la structure de mon package. Donc là, je fais un clic droit, voilà, et je vais le nommer package. Pareil, donc double clic, hop, je vais mettre ça ici et je vais l'appeler package. Et je vais chercher tout simplement à copier-coller la définition de l'ensemble de mon package. Donc si on regarde ça un petit peu dans le détail, voilà, donc c'est sur le package, donc on retrouve le nom des fichiers, on retrouve surtout dans quelle table je vais envoyer les informations. Donc là en plus on est sur le schéma sales et qu'on va l'envoyer ici dans notre une table qu'on appelle BI ML Demo, d'accord. Juste ce que je ne vous ai pas montré, donc si je reviens sur ma destination, donc c'est bien sur une base donnée, donc sur AdventureWorks 2014 qu'on va envoyer les informations, enfin quoi, les données. Donc là ici, ce qu'on a fait finalement, on a défini 4 fichiers BI ML, deux qui vont définir la source, un la destination, et puis un donc l'ensemble du package. Alors, ce qui est intéressant, donc, si je sélectionne donc, l'ensemble de mes fichiers et que je fais un clic droit dessus, je peux lui demander de checker s'il n'y a pas des erreurs. Donc, on est en train de faire ça. Donc, il me dit qu'il n'a pas trouvé d'erreur. Okay. Et je peux maintenant faire un clic droit et générer le package. Donc là, il va me générer le package. Donc là, vous voyez ici, donc, je me retrouve avec un package ici, BI ML DTS, Bits. Le package d'origine, je n'en ai pas besoin. Je vais le retirer. Dans cette démo ici, on n'a pas forcément de données sensitives, donc là je vais faire Je vais faire attention aux protection level. Alors juste un truc, j'ai fait un double clic sur le package, il m'a mis un petit warning là. The package is upgraded.
Effectivement, parce qu'en fait, la version actuelle de Bits Helper ne supporte pas encore la création de package SSIS en 2014. Donc pour l'historique, en fait, Mist, dans sa version 4, est sorti là en début d'année. Donc le temps que toutes les nouveautés au niveau du compiler soient répercutées du côté Bits Helper, il va falloir encore attendre quelques mois à mon avis.
Donc là, j'ai ouvert mon package. J'ai fait un clic droit sur mon projet, je vais dans les propriétés, justement donc pour définir cette option. Ici, le protection level, et puis là, je vais la mettre tout simplement un do not save sensitive data. Ok. Et ce qui fait que maintenant, donc il me dit attention, c'est pas le même niveau forcément entre le projet et mon package. Et puis là, ici, ce que je vais faire, donc là, vous voyez, j'ai retrouvé un control flow, quelque chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc rappelez-vous, on est vraiment parti de fichiers BIML. Et là, on retombe dans quelque chose de connu finalement, donc un package, un fichier DTSX, dans lequel nous avons un control flow, nous avons un data flow avec une source et une destination. Et donc maintenant, je vais exécuter mon package, et donc si tout va bien, il a été chercher mon fichier CSV dans OLEDB, OLEDB destination, donc dans ma base AdventureWorks 2014. Et si jamais donc, je fais un tour côté base de données, AdventureWorks, je vais faire un petit refresh. Donc sur la table, dans le schéma Sales, ici, j'ai un BI ML Demo, clic droit, select, et voilà, donc j'ai récupéré donc des données la table de ma base de données, les données venant d'un fichier CSV. Donc pour rappel, excuse-moi Bertrand, pour rappel, ici, donc je suis bien parti de la définition de package à partir de 4 fichiers BI ML.
Voilà. Et à noter que c'est justement ces 4 fichiers, imaginons que là tu les supprimes de ton projet, ton package SSIS, ton DTSX est toujours viable. Il n'y a aucune dépendance entre ce qui est produit et ce qui a servi à produire.
Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer dans cette petite démonstration qui va vous permettre donc via des fichiers BI ML décomposés finalement comme vous le souhaitez, pouvoir faire donc des petits travaux unitaires qui remis ensemble vont pouvoir justement générer donc une solution SSIS, un package comme on a l'habitude d'utiliser. Donc c'est vraiment cette notion unitaire qui est importante et justement pour la suite.
Unitaire et qui est donc aussi partageable. On a parlé des connexions manager, mais on pourrait imaginer qu'on a un data flow, par exemple commerce, avec un fichier spécifique, un data flow finance, avec un data flow spécifique. Chaque développeur travaille sur son fichier BIMLE et c'est au moment de la recompilation que tout est remis ensemble.
Exactement. Donc là, on va continuer sur les slides.
Effectivement, donc en fait, ce que tu viens de nous démontrer, c'est intéressant, mais on pourrait avoir la réflexion, quel est l'avantage entre le faire en BIMLE en script,
bien sûr,
que de le faire directement dans DataTools. En fait, l'avantage, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est de pouvoir enrichir donc, le BIMLE avec du C-Sharp ou du VBNet, pour ceux qui sont plus à l'aise avec le VBNet, pour pouvoir se connecter à une base de sources de données dans laquelle on va avoir des métadonnées qu'on va utiliser et sur lesquelles on va itérer pour au final produire n package en sortie. Donc à partir d'un seul fichier BIMLE, un template qui a été enrichi en C#, on va pouvoir en générer, automatiser la génération de n package. Ce qui va non seulement nous faire gagner du temps sur la création pure et dure, mais qui va aussi faire gagner du temps sur tout ce qui est maintenance corrective et évolutive. Et notamment, parce qu'on va le voir un peu plus tard dans la démonstration, dans Mist, on a des types de fichiers bimeleux un peu spécifiques qui s'appellent des transformers. Les transformers, c'est une sorte de patch qu'on va pouvoir aller appliquer sur toute ou partie de notre solution pour aller soit modifier, soit ajouter de l'intelligence sur ces packages en destination.
Écoute,
on va passer une démo justement pour mettre en œuvre un template de package et puis pour faire voir un exemple de transformer. Donc Franck, on va repartir un petit peu sur le même concept de la démonstration que tu viens de faire. Et avant de passer sur Mist, je vais décomposer un petit peu le bimeleu, donc un package bimeleu, et après comment petit à petit on va l'enrichir en rajoutant du C# qui va se connecter à une base de données de notre repository sur laquelle on va boucler pour créer nos packages. Donc là, ce que j'ai à l'écran, quelque part, c'est quelque chose qu'on vient de voir avec toi, qui reprend des informations de description d'un package avec des informations de connexion, qui référencent donc nos connexions manager comme tu as pu le créer dans ta démonstration. Et puis en dessous, on a différentes tâches, dont un data flow. Et dans ce data flow, une source OLEDB qui va aller chercher des informations dans une table de staging, et puis une destination qui va aller alimenter des informations dans une table d'ODS. Donc quelque chose d'assez simple, comme on peut le voir à l'écran. Donc la seconde étape, ça va être de commencer à l'enrichir avec du code C# pour préparer notre template. Donc là, ce que j'ai fait, dans un premier temps, j'ai fait un peu ce qu'on ferait dans un développement C#, tout ce qui est de plus classique. Donc je vais importer des namespaces, l'équivalent des using qu'on a dans les développements de .NET, en référençant les namespaces que je vais avoir besoin pour mon développement. Donc là, quelque chose d'assez classique, data cycle client, pour pouvoir me connecter à une base de données SQL Server. Et puis ensuite, je vais déclarer des variables qui vont me servir à initialiser ma connexion à ma base de données SQL Server. Donc là, j'ai une variable qui va contenir le nom de mon connexion manager, une autre variable avec le nom de mon serveur sur lequel je souhaite me connecter, et puis la base d'administration où je vais aller chercher mes informations. Là, dans mon cas de démonstration, je vais aller chercher des informations sur les tables système, les tables schéma. Une fois que j'ai défini ces variables avec leurs valeurs, je vais initier ma connexion à ma base de données, comme on peut le voir juste en dessous, avec mon data source, mon initial catalogue, et ainsi de suite. Et puis, sur cette data source, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller créer une data table .NET que je vais alimenter à partir d'une requête select, tout ce qui est plus classique. Donc je vais récupérer dans un premier temps le nom du schéma, le nom de la table, dans la vue système information schéma pour ma base de données AdventureWorks qui correspond à mon ODS. Donc ça, c'est ma première étape. J'ai préparé le travail de connexion à ma repository de métadonnées. Et pour l'instant, comme on peut le voir en dessous, on a toujours notre description de fichier bimeleux pour le package en question. Donc là, on va aller un peu plus loin. Maintenant, on va exploiter. Donc on va commencer à mettre en forme, à intégrer du code C# directement dans mon code bimeleux au sein de mon package. Donc là, la première opération que j'ai fait, c'est que je vais dire que pour chaque itération, donc pour chaque occurrence que j'ai dans ma table datatable.net, je vais faire une boucle for each. Et je vais créer autant de packages que de boucles for each. Donc là, c'est ce qu'on peut voir exactement ici. Je vais donc itérer autant de fois que j'ai de lignes dans ma data table. Mais comme on peut le voir en dessous, il va itérer, mais il va créer toujours exactement le même package, ETL, STG, ODS, nom de table. Donc pour l'instant, l'intérêt reste encore assez limité. On a notre connexion à notre repository, on boucle, mais on crée au final le même package. Donc l'étape suivante, ça va être d'enrichir notre code bimeleux avec des tags C# directement incorporés dans le bimeleux. Donc là, c'est ce qu'on va pouvoir voir. Donc au lieu de créer à chaque fois le même package, eh bien, je vais dire, tu vas me créer un package différent, et ce package, il va se nommer en fonction du nom de la table que j'ai ramené de mes métadonnées de ma base SQL Server. C'est ce qu'on peut voir ici. Ou je vais rajouter un tag qui va aller chercher, donc dans ma data table, l'index 1 qui correspond donc au nom de table que j'ai récupéré dans mes métadonnées au niveau SQL Server. Et puis, je vais aller enrichir un peu partout comme ça, donc mon code BIMLE, avec par exemple la possibilité de, pareil, au niveau de mes data sources, bon là je m'en suis servi pour du nommage, mais je peux aussi spécifier mes data sources, quels sont les schémas tables qui doivent aller attaquer, ou la destination, quel est le schéma table qui doit aller alimenter. Donc c'est ce qu'on va voir ici, par exemple, avec, donc, dans ma table source, le schéma point ma table qui correspond à l'itération en cours de mes métadonnées que je viens de récupérer de ma data table. Donc quelque chose d'assez simple, comme on a pu le voir, donc, du code .NET pour se connecter à une base de données, quelque chose qui est relativement simple, une data table qu'on alimente à partir d'une requête SQL, une book for each, et puis des tags C# qu'on va aller intégrer directement donc, dans notre code BIMLE. Rien de très très complexe, ni de connaissances particulières en .NET pour pouvoir faire ça, mais ça nous permet d'aller déjà assez loin, puisque ce package, ce template BIMLE, lorsqu'il va être exécuté, va nous produire autant de packages SSIS en sortie qu'on aura d'itérations dans cette table qui a été récupérée, nos métadonnées. Donc là, désormais, je vais passer dans MIST, qui est donc l'éditeur avancé proposé par Varigence. Donc j'ai exactement le même code qu'on vient de voir dans le template au côté de Notepad. Comme on peut le voir, donc j'ai tout un tas d'outils qui sont mis à ma disposition pour moi pouvoir créer ou exécuter, configurer, etc. mes packages. Là, j'ai repris le code qu'on vient de voir qui est déjà présent dans un fichier BIMLE. Et puis, ce que je vais faire, je vais me placer dessus et puis je vais lui dire « Exécute-moi ce fichier de script BIMLE ». Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se connecter à SQL Server, à ma base ODS, et puis il va récupérer les informations de metadata des vues système pour cette base ODS. Et pour toute information qu'il va trouver de schéma, de couple, schéma table différente, il va créer un package en sortie différent. Donc là, on vient de voir, il vient de créer 71 packages en quelques secondes. Pour l'instant, ce sont des packages qui sont encore qu'au format BIMLE. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, ce ne sont pas des packages DTSX. Par exemple, si je l'édite, j'ai bien quelque chose d'assez visuel, comme on peut le retrouver dans Data Tools, mais derrière, c'est toujours du BIMLE. Donc là, on a l'équivalent qui était produit en BIMLE. Donc là, la prochaine étape, ça va être de produire, on en a parlé tout à l'heure, dans MIST, il est possible, au moment du build, de générer la solution SSIS associée, les project param, si jamais on est en mode de déploiement, donc dans le catalogue, et le ISPAC qui est associé. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais me mettre sur Build and Deploy, et puis, je vais dire de builder. Donc là, le process est en cours. Donc en 7 secondes, on vient de créer un projet SSIS avec l'ensemble des packages, le project param et le ISPAC. Donc on va tout de suite aller voir dans Data Tools ce qu'on vient de produire. Donc ça, c'est le projet qui vient juste d'être créé à l'instant même avec un DT proj que je peux ouvrir. Et puis, on a les connexions manager qui là pour le coup sont partagés comme on en a parlé tout à l'heure. Puis par exemple si je prends un package, par exemple le package département que j'édite, donc j'ai mon dataflow comme on a vu dans le script BIMLE, et dans ce dataflow j'ai une source OLEDB et une source, une destination elle aussi OLEDB vers ma destination qui est donc mon ODS dans notre exemple. Si je le exécute dans Data Tools. Donc on peut voir qu'il a alimenté avec succès 16 lignes qu'on va aller voir tout de suite dans la table en question. Donc Le package s'est exécuté avec succès. Maintenant, on va aller voir le résultat dans notre destination, dans notre base ODS AdventureWorks, donc en faisant un simple select. Et là, effectivement, je peux voir que j'ai mes 16 lignes en destination. Donc, déjà, on a pu voir qu'on a généré un nombre de packages, une solution complète, en fait, SSIS, en un temps quand même assez record.
Maintenant, on pourra se poser la question, quid des modifications ?
Voilà, donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec ce qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, les transformers qui sont un type de script bimleu assez spécifique pour appliquer des patchs de maintenance corrective ou évolutive sous toute partie d'une solution. Donc là, pour ce faire, on va imaginer que dans le cadre de notre projet, on a dû rajouter une colonne supplémentaire sur cette table département. C'est une colonne qui n'est pas donc disponible dans nos sources. Et on va donc devoir ajouter une dérive colonne dans nos packages, dans tous nos packages, pour pouvoir l'alimenter de manière statique avec une information de type metadata au sein du package. Donc là, j'ai un script qui va me permettre de rajouter une colonne en plus. Donc normalement, si je fais un refresh, nous pouvons voir que j'ai une nouvelle colonne supplémentaire dans ma table département. Et puis, je vais retourner dans Myst, où donc, on a des types spécifiques qui s'appellent les transformers. Donc, les transformers, ce sont des fichiers bimleux, comme on a pu le voir, mais qui vont donc aller appliquer des transformations. Donc, pour aller appliquer une transformation, il faut d'abord lui spécifier la target où est-ce qu'on souhaite appliquer cette transformation. Donc là, dans notre cas, donc on a cette information target et on lui dit le type. Moi, je vais vouloir me placer au-dessus, avant notre LDB destination, pour aller rajouter cette dérive colonne qu'on va avoir en plus. Après, on a différents types de merge, c'est-à-dire que là, on va faire du local et replace, mais il y a d'autres types suivant les opérations qu'on souhaite effectuer. Et puis, en dessous, on a du code bimleu, quelque part, qui est assez standard, puisque je lui rajoute une transformation de type dérive colonne. Cette dérive colonne, elle va se nommer par rapport à l'environnement, au contexte dans lequel elle va être ajoutée. Donc, elle va récupérer les informations de nommage de l'environnement dans lequel elle va être ajoutée pour s'autonommer, entre guillemets, elle-même. Après, on a les informations propres aux propriétés de la dérive colonne, le nom de la colonne, le length, son data type, et puis l'information, la valeur qui est contenue dedans. Et puis enfin, on a aussi cette information ici qui permet de récupérer le bimleu du contexte du package dans lequel justement on va aller inscrire cette transformation. Ensuite, on pourrait se dire, oui, mais on avait déjà un lien vers l'OLDB destination qui provenait de notre OLDB source. Maintenant, on lui rajoute un lien qui provient de la dérive colonne. Il faut bien mettre ça à jour. Donc, c'est ce que fait ce second transformer. Il annule le précédent lien entre l'OLDB source et l'OLDB destination. Après, pour plus de commodité, pour ne pas avoir à appliquer chaque transformer un à un séquentiellement et manuellement, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des frameworks. Des frameworks, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un fichier bimleu, une fois de plus, dans lequel on va référencer séquentiellement les transformers tels qu'on souhaite les exécuter. C'est ce qu'on peut voir ici à l'écran. Et puis, eh bien, je vous propose donc d'exécuter ce transformer. Donc, je lui spécifie dans le build and deploy que j'appelle justement le transformer, le framework qui contient les transformers de référencer, et je fais un simple build. Donc là, il va aller appliquer l'ajout de la dérive colonne avant l'OLDB destination dans tous les packages, l'annulation du précédent lien, et là, pareil, en 7 secondes, on vient de mettre à jour l'intégralité de la solution. J'aurais pu être plus fin de lui dire non, tu vas me l'appliquer que sur ces packages et non pas sur toute la solution. Théoriquement, quand je reviens dans mon Data Tools où ma solution était toujours ouverte, il me dit ah, apparemment il y a eu une modification qui a été appliquée. Donc je vais faire un reload. Donc je recharge mon package département qui était encore ouvert. Et là, je peux voir que j'ai une dérive colonne qui a été ajoutée, avec la bonne information, démo transformer, et maintenant on va exécuter donc ce package qui a été transformé. Maintenant qu'on a appliqué cette transformation et qu'elle est visible donc au sein de notre package SSIS notre package d'alimentation du département, bah, je te propose de l'exécuter et de voir le résultat.
Donc là, tu réexécutes directement
dans Data Tools.
Ok, directement.
Donc ça a été assez rapide. On voit qu'on a bien 16 lignes d'inséré, qu'il est bien passé par la dérive colonne. Et maintenant, on va aller voir en base bah, le résultat. Donc théoriquement, on a cette nouvelle colonne, qui devrait être alimentée. Et c'est exactement ce que l'on a à l'écran.
Donc là, combien de packages tu as modifié ?
71 qui ont été créés, générés. En 7 secondes et qui ont été modifiés en 7 secondes également.
Et ce qui est important, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu peux aller en modifier qu'un seul. T'es pas obligé.
Je peux en modifier qu'un seul. Là, pour les besoins de la démonstration, je l'ai fait sur l'intégralité de la solution. Mais j'aurais très bien pu dire, tu me l'appliques que sur le package qui correspond à un département.
D'accord.
Donc, une frappe chirurgicale quelque part.
C'est beau.
Donc, on a pu voir d'une manière assez simple, mais très performante, comment générer et maintenir des packages dans Bimle et dans Myst.
Alors, pour aller plus loin
Ça va être l'automation de nos solutions Bimle. Donc, on a plusieurs possibilités. On a une première possibilité, c'est via le PowerShell. Donc, dans le PowerShell, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir générer du Bimle, c'est-à-dire, en gros, créer le Bimle, les tags, etc. Personnellement, je n'y vois pas un grand intérêt puisqu'on peut le faire directement dans un éditeur. Par contre, le grand intérêt qu'on va avoir d'utiliser du PowerShell, c'est de le coupler au projet Bimle qui sont faits avec BitZelper. On l'a vu, BitZelper ne permet pas de générer ni la solution, ni de la builder, donc de générer le ISPAC et ainsi de suite. Donc on va pouvoir utiliser des scripts PowerShell pour qu'une fois les packages générés, eh bien, builder cette solution, générer les project params, le ISPAC, etc. Puis, dans la foulée, le déployer dans le catalogue. Par contre, ce qui n'est pas possible de faire avec PowerShell, c'est de faire l'équivalent du clic droit Generate Package à partir du Bimle et donc de les générer à la volée. L'autre possibilité, c'est de faire appel au compiler Bimle, anciennement Hadron, dans Myst. Là, par contre, on peut appeler directement des scripts Bimle, donc en ligne de commande, et lui dire « tu me génères le package derrière avec la solution, l'ISPAC et ainsi de suite ». C'est assez intéressant dans le sens où, lorsqu'on est sur des scénarios d'alimentation assez volatiles, c'est-à-dire qu'on a des alimentations pour lesquelles on n'a pas les mêmes packages à exécuter tous les jours, et que même pour ces packages, l'information, leur propriété est également volatile et peut changer au jour le jour. Ces informations, on va les stocker dans une base de données, de métadonnées, et puis on va scheduler Hadron dans un planificateur de tâches et lui dire « voilà, tu m'appelles tel projet Bimle », puis tu me le génères tous les jours, et comme ça, tous les jours, il est à l'image identique de ce qu'il faut exactement générer et exécuter. Donc, on vient d'en parler, la planification, la possibilité d'y faire appel dans un ordonnanceur de type planificateur de tâches dans Windows.
Dans Windows, tout à fait.
Voilà.
Bon, pour la synthèse, Bertrand, dans ce cours MVA, donc on a vu pas mal de choses. Donc on a repassé déjà les fondamentaux de SSIS, Integration Services. Donc on a vu ce que c'était qu'un package, qu'un control flow, data flow. On a vu comment créer un package avec SSDT BI. D'accord. Donc on est parti de quelque chose d'assez simple pour ensuite en faire quelque chose de beaucoup plus évolué avec un control flow évolué qui peut carrément agir sur les fichiers, les système files, sur la détection si oui ou non d'une table plutôt existante dans une base de données. Intégrer tout ça dans des machines virtuelles tournant dans le cloud, donc pour la partie SSIS, et puis pour tout ce qui était maintenance, correction évolutive et ce genre de choses. Donc on a vu une solution qui tourne autour de BIML. Notamment, tu nous as présenté Myst, qui est grâce à ça. Donc, le couple SSIS, plus précisément SQL Server Integration Services avec Myst, nous permet donc d'avoir une solution complète aussi bien dans la création des packages que la création, leur exécution, puis surtout
la maintenance
et l'évolution. J'espère que ce cours aura été utile pour vous. En tout cas, moi, il me reste à vous dire au revoir. Au revoir Bertrand, puis merci
Franck,
de m'avoir aidé
à tous. Merci
sur ce cours. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouveaux cours MVA.